Ce qu'il y a de bien dans l'Église, c'est que nous sommes tous différents. Et même après quelques années, je suis entièrement différent de mon frère. Tout simplement parce que déjà à l'époque, il voyait les forêts et moi je voyais les arbres. Donc les arbres, pour moi, le Seigneur m'a donné vraiment un cœur de berger. Donc je n'ai pas une vision à long terme comme peut l'avoir reçu Michel et André. Mais par contre, j'ai ce cœur de berger qui est pour moi quelque chose d'important parce que finalement, chaque jour, les uns et les autres, nous traversons, c'est vrai, des difficultés et on a besoin aussi d'avancer avec le Seigneur. Alors, quand André m'a dit « Est-ce que tu veux bien apporter une exhortation ?» Je dis oui, parce que j'ai, dans mon tempérament, dans mon caractère, je suis un peu comme Pierre. Alors, c'est vrai que je me casse souvent la figure, mais béni soit le Seigneur, parce que ce qui s'est passé, c'est que Pierre, on le retrouve à la fin, où le Seigneur l'a vraiment guidé, etc. Mais il a fallu qu'il fasse plusieurs expériences. Et c'est là aussi mon cas. Alors, André me dit, mais écoute, ça serait bien que tu apportes une exhortation. Je dis, oui, pas de problème. Mais sauf qu'après, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à cette Église? Parce qu'il y a la délivrance, il y a la relation d'aide, guérison, etc. etc. Quelle est ta pensée? Alors, j'étais un petit peu enquiquiné avec tout ça. Et je dis, bon, le seul moyen de savoir, c'est de se placer devant la présence de Dieu et dire, voilà, qu'est-ce qu'a besoin cette Église? Et donc, je vous donne simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez, lorsque vous entendez la parole de Dieu, prendre ce qui est bon comme un épi de maïs, et vous n'allez pas manger les feuilles, vous allez peut-être en faire de la tisane, vous allez manger les feuilles, non, vous n'allez pas les manger, vous allez faire des tisanes, vous allez prendre les grains et le reste vous jetez. Ce qui est important, c'est que chacun ce matin reçoive exactement ce que le Seigneur a pour chacun d'entre vous, et moi y compris. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, et je serai très court là-dessus, et je vais en venir avec quatre pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur. Je pense que c'est pour chacun d'entre nous, mais c'est possible aussi que ce soit pour l'Église. Donc je commence tout simplement avec ce verset qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La condition, bien sûr, c'est de prendre le joug du Seigneur sur nous et recevoir les instructions « Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Et je crois que chacun d'entre nous, alors je vais essayer d'être court, tu me laisses jusqu'à quelle heure, André? Hein? Midi 10? Ok. Ok. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons besoin de repos. Et la plupart du temps, je dis ça pour vous, mais je me parle aussi à moi-même, parce qu'on a beau dire, oui, le Seigneur, il est vraiment le Seigneur de ma vie. Et le Seigneur m'a repris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine de ça, non, il y a 15 jours de ça. Je dis, oui, le Seigneur me pose la question, l'Esprit de Dieu me pose la question, est-ce que je suis vraiment le Seigneur de ta vie? Ben oui, Seigneur, pas de problème, tu es le Seigneur de ma vie. Il me repose la question, est-ce que tu es le Seigneur de ma vie? Est-ce que je suis le Seigneur de ta vie? Ben oui, Seigneur. Donc quand on entend deux fois comme ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je commence à me poser la question, je dis, et d'un seul coup, tac, petite lumière, voilà, j'ai des travaux à faire, j'ai des fenêtres à changer, ça ne paraît rien du tout. Enfin, je ne parle pas de questions finances, ça ne paraît rien du tout, dans le sens où j'ai besoin de changer des fenêtres et des portes. Mais le Saint-Esprit me rappelle, il me dit comme ça, tu veux faire ce que tu as envie et non pas, tu ne viens pas chercher mes directions à moi pour savoir quand et à quel moment. Je dis, ok Seigneur, j'ai compris la leçon. Donc je ne suis pas en train de vous culpabiliser, ni quoi que ce soit, parce que la leçon, je me la fais avant tout à moi-même. Les passages que le Seigneur m'a mis sur mon cœur, c'est un passage que vous connaissez bien, que vous avez lu à maintes et maintes reprises. Ce passage se trouve dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, où nous voyons que Bartimée, il était là, C'était un mendiant. Il était assis sur le bord du chemin. Et d'un seul coup, donc, il entend que Jésus va passer. Et quand il voit qu'il passe, donc il faut savoir que le nom Bartimée veut dire fils de l'honneur. Fils de l'honneur. Essayez de réfléchir un peu. Je nous pose la question ce matin, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes vraiment des fils de l'honneur ou nous sommes tout simplement des mendiants comme Bartimée? Je vous laisse le soin de répondre. Donc, Bartimée, quand il a su que Jésus était en train de s'approcher, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il s'est levé et il a voulu absolument crier vers Jésus pour qu'il l'entende. Sauf que, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a eu les disciples qui étaient là, qui l'empêchaient. Hein, « Attends, tu vas importuner le maître. » Et un tas de la foule. « Attends, Jésus, c'est Jésus, tu ne peux pas non plus. » Mais on voit que Bartimée, il a insisté. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin, vraiment de la part du Seigneur, c'est que si tu veux que ta situation change, il est nécessaire que malgré l'opposition que tu peux trouver, eh bien tu te lèves et tu cries non pas à n'importe qui, mais tu cries à Jésus. Amen. Parce que c'est ça qui est important. Et quels que soient ceux qui se mettront en travers de ton chemin, laisse et continue à crier jusqu'à ce que le maître entend. Amen. Amen. Il y en a 3-4 qui suivent là. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée, fils de l'honneur, qui est là comme un mendiant, la première chose qu'il a faite, frères et sœurs, c'est quoi? Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau de mendiant. Et j'aimerais te dire encore ce matin quelque chose vraiment de la part du Seigneur. C'est que si tu veux changer ta vie, si tu veux être, dans cette nouvelle dimension que le Seigneur a pour toi et qui était déjà là au départ, puisqu'il s'appelle fils de l'honneur, tu es le fils bien-aimé du Seigneur. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que, je ne vais pas vous faire un cours sur la relation d'aide, mais alors que nous étions une masse informe, il nous voyait déjà. Avant même la création du monde, Dieu a pensé à toi, à toi, à toi. Et il savait qu'est-ce qu'il allait faire avec chacun d'entre nous. Donc, nous sommes vraiment des fils de l'honneur. Mais nous avons besoin de laisser et de jeter le manteau de mendiant que nous avons. Amen. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à garder ce vieux manteau. Et en disant ça, merci Seigneur, parce qu'au fur et à mesure que ça, je parle, le Saint-Esprit, nous avons besoin, frères et sœurs, de renouveler nos pensées, notre intelligence, notre façon de voir, notre façon de percevoir les choses. Parce que si nous ne le faisons pas, nous resterons comme des mendiants, alors que nous sommes héritiers, fils de roi, etc., etc. Je ne vais pas vous en donner davantage. Amen. Et à partir de là, on voit que Bartimée, fils de l'honneur, il a commencé à suivre Jésus. Amen. Donc, première chose que le Seigneur met sur mon cœur, c'est ça. Mais c'est vrai en tant qu'individu, et c'est vrai aussi en tant qu'Église. Deuxième passage que vous connaissez, décidément ce matin, Ézéchiel nous parle. Et c'est Ézéchiel au chapitre 37, je ne vais pas vous le lire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un passage, non pas qui se rapporte à nous, mais qui se rapporte à Israël dans les derniers temps où les 12 tribus vont être rassemblées. Mais on ne va pas le lire, je vous donne simplement le texte, c'est simplement, vous pourrez le regarder chez vous. Ce qui me semble important, c'est que Dieu dit à Ézéchiel, écoute, donc il le transporte dans une vallée. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, fais le tour. Qu'est-ce que tu vois? Voilà, fais le tour. Et il voit tout simplement des ossements desséchés. Je te pose la question maintenant. Et je pense que c'est vrai que ce passage s'applique directement à Israël, mais nous pouvons prendre ce passage pour chacun d'entre nous aussi ce matin. Et le Seigneur te dit encore ce matin, fais le tour et regarde. Et alors tu vas commencer à dire, écoute, voilà, Seigneur, j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec mon mari, les enfants, c'est pas ça. Je suis dans un pays où on a du mal à évangéliser, on a un tas de choses qui ne vont pas, etc., etc., etc. Et là, je crois que ce qui est important, donc il lui fait voir, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Mais ce qui est le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas ce que je vois, moi, avec mes yeux, qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que Dieu me dit de faire. Et Dieu me dit, prophétise sur ces choses-là. Prophétise sur ces ossements. Est-ce que tu crois que ces ossements vont revenir à la vie? Il ne va pas se mouiller, le prophète, et dire, tu sais, toi, je ne sais pas. Mais, il dit, prophétise. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions, les uns et les autres, donc en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église, prophétiser sur nos vies en nous appuyant non pas sur ma parole mais nos paroles mais sur la parole de Dieu, parce que à partir du moment que vous êtes en train de dire la parole de Dieu, c'est vrai que peut-être que ça va rien vous dire, mais à un moment donné l'Esprit de Dieu va dire voilà, confesse cela. Et à partir du moment où tu vas confesser cette parole de Dieu, il faut savoir qu'à ce moment-là, eh bien, à partir du moment où tu la confesses, cette chose va se réaliser. J'aimerais que on puisse, les uns et les autres, frères et sœurs, nous appuyer non pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et cela, c'est vrai en tant que famille, c'est vrai en tant qu'individu, et c'est vrai aussi en tant qu'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole du Seigneur ne revient pas à elle sans avoir fait son effet. Amen. Amen. Cette tristesse dans mon cœur. Mais je dis non, Seigneur, ta parole me dit ça, ça et ça, et je veux le confesser jusqu'à ce que je puisse voir le plein accomplissement. Quelle que soit la situation que tu traverses ce matin, que ce soit la situation de couple, que ce soit travail, que ce soit dans tous les domaines, appuie-toi non pas sur ce que tu vois, ni ce que tu entends, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Voilà la deuxième pensée que... Je ne lis pas les passages parce que je raccourcis. Ok. La troisième pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, c'est... Si on vous regarde les uns et les autres, vous me regardez, vous m'auriez vu il y a à peu près un an de cela, franchement, j'étais dans un piteux état. Et donc, vous auriez pu dire, attends, ce frère, vraiment, il a dégringolé. Où c'est qu'il en est, ce frère? Et où est-ce que je vais en venir avec ça en vous parlant de ça? C'est tout simplement que, au niveau individuel et au niveau Église, il y a des temps. Pourquoi? Parce que si vous prenez un arbre en plein hiver, qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir des fruits dessus? Non, vous n'allez pas voir de fruits dessus. Par contre, vous allez voir qu'en plein hiver, il n'a pas de fruits, il est sec. Et moi, si je regarde un frère qui, à ce moment-là, passe par une période où c'est l'hiver, c'est sûr que c'est très 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 facile de critiquer en disant comme ça, mais attends, t'as pas vu la sœur untel? Écoute, tu vois pas le frère untel, comment est-ce qu'il est? Hein? Ouais, on dirait qu'il est tout sec. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, si on prend le soin et le temps de regarder, on va s'apercevoir que finalement, donc, à un moment donné, il y a quand même des petits bourgeons qui vont arriver. Amen. On va s'apercevoir qu'à un moment donné, il va y avoir des feuilles. Et on va s'apercevoir qu'à un moment donné, il y aura des fleurs. Et à un moment donné, il va y avoir donc des fruits selon l'arbre. Et j'aimerais te dire, en tant qu'Église, ce matin, réfléchis à quel temps l'Église est. Est-ce que c'est une temps de récolte? Est-ce que c'est le temps de semer? Quel est le temps par rapport à l'Église, premièrement? Et individuellement, je pense que c'est aussi très, très, très important de ne pas se juger les uns les autres, parce que finalement, à partir du moment où on commence à se juger les uns les autres, ben finalement, on détruit le corps. Si je commence à dire à mon bras, écoute, tu ne me sers à rien, et c'est bien que tu sois dehors, et je commence à m'atrophier. Donc, bénissons au lieu de maudire. Amen. Amen. Quatrième pensée, je vais prendre un peu plus de temps avec ça. J'aimerais vous parler des tempêtes ce matin. Et les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos vies, certaines sont tout simplement faites tout simplement parce que on est à côté de la plaque. Un exemple, si je prends ma voiture et je grille volontairement un feu rouge, j'aurais beau proclamer que le Seigneur me garde, c'est sûr que tôt ou tard, je vais avoir un accident. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il y a des situations où, finalement, les uns et les autres, on fait des bêtises, donc on assume les bêtises qui sont derrière. Mais ce matin, j'aimerais plus orienter par les tempêtes que le Seigneur peut permettre dans nos vies. Qui c'est qui passe par une tempête ce matin? Non, levez pas la main. Non, je voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Mais rappelez-vous de Jésus qui avait prêché toute la journée et il était fatigué. Et puis à un moment donné, donc il va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Amen. Et c'est là-dessus que j'aimerais un petit peu insister, puisqu'il me reste 10 minutes. Avec la grâce de Dieu, peut-être que la prochaine fois. Jésus dans la barque, il dort. Était-il fatigué? Est-ce qu'il l'avait mis de côté? Je pense qu'il était fatigué, mais bon, ça c'est moi qui dis ça. Parce qu'il avait prêché, il était épuisé, quoi. Et il dormait. Puis à un moment donné, donc la tempête, elle arrive. Et à ce moment-là, les flots commencent à monter. Et pourtant, c'était les disciples, c'était des pêcheurs de métier. Ils connaissaient chaque recoin de là où ils allaient. Et ils se trouvent quelque part piégés. Et à ce moment-là, ils ont crié vers le Seigneur en disant, « Seigneur, Seigneur, tu ne te soucies pas de nous, de ce que nous sommes en train de périr. » Bon, le maître se réveille, Jésus se réveille, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il menace le vent et il parle à la mer en disant, « Tais-toi. » Et il va dire aux disciples, « Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et il nous est dit tout de suite après ce verset, ils furent saisis d'une grande crainte, parce que qui est celui-ci qui commande même au vent et à la mer? Les disciples de Jésus qui ne connaissent pas le maître. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Comment est-ce que vous connaissez Jésus? C'est quand tout va bien? Que votre portefeuille il est plein, que vous avez une belle maison, belle femme, un beau mari, plein de meubles, etc. Ou comme c'est ici. Et je pense que parfois nous ne connaissons pas véritablement le Seigneur. C'est dur ce que je dis quand même. Oui ou non? C'est dur. Et je n'ai pas le temps. Peut-être que la prochaine fois, je vous donnerai mon témoignage là-dessus. Mais donc je ne veux pas dire de bêtises, je me suis converti donc en 1977, donc ça fait 39 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a seulement deux ans, que je commence simplement à connaître qui est véritablement mon Père céleste. Dire comme ça, quoi? Tu as prêché, tu as... Oui, On a prêché, j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu de la délivrance. Et pourtant, je peux dire que je ne connaissais pas. Et là, les uns et les autres, posons-nous réellement la question, est-ce que nous connaissons bien notre Seigneur? Je vous laisse répondre. Et cela dit, ce n'est pas du tout avec une supériorité de langage ou quoi que ce soit, ou même de la culpabilité, parce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, en tout cas, c'est justement que nous soyons de plus en plus proches du Seigneur, qu'il y ait une confiance totale, parce que devant nous, frères et sœurs, il faut savoir que les jours sont mauvais et ça ira de plus en plus mal. Bien sûr qu'il faut prier, bien sûr, mais ça ira de plus en plus mal. Et si nous ne nous confions pas dans le Seigneur lui-même, mais nous nous confions en nous, tôt ou tard, frères et sœurs, nous allons partir à la dérive. Bon, il faut que je raccourcisse encore un peu. Désolé. On va passer, hein? Ok. On va passer. On va venir quand même à l'essentiel et ce qui peut être retenu pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que cette tempête était quelque chose de naturel? Oui ou non? 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 Alors, prenez note. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose de surnaturel, tu n'affronteras pas cette tempête dans le naturel, mais dans le surnaturel. Amen. Prenez conscience de ça. Ce n'était pas une tempête naturelle, c'était surnaturel. Donc, premièrement, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose de surnaturel, tu ne pourras pas l'affronter dans le naturel, mais dans le surnaturel. Deuxième chose. Quand Dieu t'appelle à faire du même style, mais quand Dieu t'appelle à faire des choses impossibles et même à résoudre humainement, il ne te sera pas possible de le résoudre humainement. C'est simplement dans la confiance dans le Seigneur que tu pourras résoudre cela. Amen. La tempête dans ta vie aujourd'hui, ou dans nos vies aujourd'hui, elle est en mesure à voir à ce qu'il y a à faire de l'autre côté du rivage. Amen. Parce que Dieu, parce que Jésus donc avait reçu de la part de son Père d'aller de l'autre côté du rivage. Pourquoi? Parce que il y avait de l'autre côté du rivage cet homme qui était enchaîné que personne ne pouvait tenir et maintenir. Il avait quelque chose de précis. Et il faut savoir que lorsque Dieu t'appelle et il te dit « Allons de l'autre bord », et c'est ce qu'il fait avec l'Église, mais c'est ce qu'il fait aussi avec chacun d'entre nous, il faut savoir qu'il prend la responsabilité de l'Église, comme de chacun d'entre nous, à nous emmener là où on doit aller, parce qu'il y a quelque chose à accomplir. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un homme qui ne pouvait être maintenu par personne. Mais il faut savoir que dès que Jésus est arrivé, les démons qui étaient là se sont manifestés. Et je suis obligé de raccourcir, je n'ai pas le temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cet homme, une fois qu'il était délivré, vous le voyez qu'il a voulu suivre Jésus. Et Jésus va lui dire comme ça, « Non, tu ne me suis pas, tu vas retourner vers les tiens. » Première chose qu'il va faire, il va retourner chez lui, auprès de sa famille. Et ensuite, lorsque vous lisez le texte, il est parti dans la décadote, c'est-à-dire au moins 10 villes aux alentours pour annoncer Jésus. Un évangéliste, quelqu'un qui était complètement, qu'on avait mis de côté, que personne ne pouvait guérir, etc. Jésus est arrivé et il l'a libéré et il en a fait un évangéliste parce que les 10 villes qu'ils étaient autour, il est parti annoncer la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire que, quelle que soit la tempête, il reste encore 2 minutes. Ok, je suis dit. Lorsque nous lisons, par exemple, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me conduit dans Amen. La plupart du temps, frères et sœurs, on a tendance à s'arrêter là. Et puis, il y en a même qui soulignent dans leur Bible toutes les promesses de Dieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers la joie. » Sauf que, un tout petit peu plus bas, et il nous dit comme ça, tout simplement, que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est vrai, mais il y a des endroits, frères et sœurs, que Dieu va nous faire passer. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Et je n'ai pas le temps, mais ça aurait été intéressant de voir que finalement, c'est lorsqu'il n'y a plus rien dans un pâturage, Jésus lui-même, il nous emmène ailleurs. Mais d'un passage à un autre, il y a des difficultés. Et sa houlette et son bâton, voilà ce qui me rassure. Donc il faut savoir que le berger, il a un pic. Et en fait, c'est pour protéger des loups, etc. Mais en même temps, il a une espèce de crosse. Et c'est vrai que, excusez-moi du terme, mais un mouton, c'est bête. S'il y en a un qui va, c'est un mouton qui s'en va droit dans un fossé, tout le reste suit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reste, et en plus, il ne voyait pas très bien, c'est qu'il reste à peu près très, très, très proche de ses brebis, parce que le berger, quoi, avec sa houlette, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va essayer de l'attraper, peu importe comment. Peut-être que ça va lui faire mal, mais il va tirer dessus pour garder la brebis, pour pas que. Alors, des fois, ça fait mal, c'est vrai. Je n'ai plus le temps, mais c'est ce que j'aimerais vraiment. Juste un dernier passage que j'ai dans ma tête. Et il y a un autre passage dans. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais il nous est dit que lorsque tu passes par la vallée de Baca, ça vous dit quelque chose ? Enfin, bref. Et en fait, toute cette vallée, elle est remplie d'arbres comme s'ils pleurent, comme s'ils pleuraient. Mais il faut savoir que peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de pleurer et tu passes par cette vallée. Mais sache que lorsqu'on lit le passage, c'est un lieu de restauration, c'est une oasis qu'on trouve tout de suite après. Alors j'aimais juste terminer en te disant comme ça, mon frère, ma sœur, quelle que soit la tempête que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, aie une confiance totale dans le Seigneur parce qu'il te garde, il veille sur toi. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui ne tombe sans qu'il le sache. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, il est là, il le sait. Fais-lui simplement confiance. Amen.